Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales 04. Une conférence très bientôt à Saint-Martin-de-Brome. Ça s'appelle Les Brigands.
Oui, alors donc effectivement, c'est une conférence donc qui aura lieu le 8 février à Saint-Martin. Le sujet des brigands est en fait c'est tout à fait adapté à la commune puisque ces fameux brigands que je vais évoquer qui ont sévi pendant la période révolutionnaire et au début du consulat ont été particulièrement dangereux justement dans les régions de Riez, Allemagne, Saint-Martin-de-Brône. Alors c'était une bande qui était composée essentiellement de Varois. En fait, on appelait ça la bande de Pourrières, hein, donc du nom de la commune, qui fédérait en fait des brigands d'origine très différente. Il y avait évidemment des Basalpins, mais il y avait aussi des gens du Vaucluse, des gens des Bouches-du-Rhône, etc. Toujours est-il que cette bande venant du Var a beaucoup sévi dans la partie, on va dire, sud du département, le Verdon, Esparron-Verdon, etc. Mais aussi beaucoup plus haut, a notamment sévi à l'époque au Poil et Majastre, hein, donc elle a vraiment dévasté les deux villages. Donc elle n'hésitait pas à faire des grandes chevauchées, environ une trentaine de brigands à cheval, armés, évidemment qui impressionnaient, qui portaient quelquefois, pour certains d'entre eux, des costumes militaires, ce qui fait que souvent les populations pensaient que c'était des militaires, puisqu'il faut se rappeler aussi que cette période est une période de guerre très importante. Hein, depuis 1792, la France est en guerre, et donc il y a évidemment des soldats un peu partout, et surtout le système de la conscription, hein, donc la loi Jourdan de 1798. Donc évidemment, ça ne surprenait personne. Or, en l'occurrence, évidemment, ces brigands agissaient quasiment en toute impunité. Alors il y a eu, pour effectivement de résoudre ce problème, qui était un problème massif, hein, vraiment de brigandage à des fins délictuelles, mais aussi avec une connotation royaliste. Hein. Souvent les brigands, à l'origine, c'était des contre-révolutionnaires, et qui donc bénéficiaient évidemment de complicité, hein, de royalistes. Pour résoudre le problème, il a fallu employer des très très grands moyens. Alors on a employé l'armée, les gardes nationales, la gendarmerie, on a fait des chasses aux brigands, des rafles, différentes façons, et puis une justice d'exception qui était radical. On a créé dans la région, donc, parce que le brigandage ne concerne pas que le département des Basalpes, il concerne aussi les autres départements, on a créé une commission qui porte le nom de son général, le général Ferrino, et qui donc siégeait à Avignon. Soit vous étiez acquitté, soit vous étiez condamné à mort. Voilà, donc différents moyens de cette justice, des justices aussi plus ordinaires, mais qui aussi présentaient donc, des caractères un peu exceptionnels, des mélanges de jurys avec des juges professionnels, mais aussi des militaires. Et finalement, le brigandage en bande a disparu. Il y a toujours un brigandage résiduel qui existait auparavant et qui a continué, qui était souvent individuel ou deux ou trois personnes. Et ce brigandage, ce grand brigandage, hein, qui était très organisé avec ses grandes bandes, a quasiment disparu dans les années 1803-1804. Alors il faut bien se rendre compte en fait de l'importance du brigandage. Au début, la population est plutôt favorable aux brigands, puisque c'est un peu, ils sont un peu contre l'État. On ne peut pas faire de comparaison, hein, par rapport à aujourd'hui, mais il y a quelque chose contre l'État, contre la conscription, puisque souvent les brigands sont de jeunes gens qui sont soit des déserteurs, soit des jeunes qui ne veulent pas rejoindre les armées. Donc évidemment, les populations ne sont pas tellement favorables à que leurs enfants aillent faire la guerre. Donc il y a une certaine complicité. Mais au fur et à mesure, évidemment, de ces brigands qui sévissent de plus en plus, hein, qui sont cruels. Le plus gros crime qu'ils commettent, c'est à Riez. Ils tuent 11 personnes dans la même maison. Hein, ils tuent absolument tout le monde, vieillards, enfants, etc. Il y a seul un enfant de 3 ans en réchappe. Mais ils ont torturé les propriétaires de l'exploitation agricole pour essayer de savoir où est l'argent. Ce qu'on appelait les chauffeurs, vous savez, donc ils brûlaient, hein, des parties du corps, y compris des parties intimes. Donc, vous voyez, donc, et ils terminent d'ailleurs, après avoir tué les 11 personnes, ils font un énorme repas, faisant cuire, on le sait, par l'enfant, et puis par les restes, l'enquête, hein, ils font cuire en fait une grosse omelette, hein, ils mangeaient beaucoup d'omelettes à l'époque. Hein, donc. Alors si la population est évidemment de moins en moins favorable aux brigands, il n'empêche qu'ils bénéficient quand même d'un support logistique très important. Il y a parmi les brigands un renégat, quelqu'un qui a voulu sauver sa peau et qui a donc raconté tout ce qu'il savait sur les brigands, sachant que lui-même avait une très grande expérience, hein, du brigandage. Donc, il connaissait beaucoup de brigands, plusieurs centaines. Il a fait partie de cette fameuse bande de Pourrières. Et donc il raconte qui aidait les brigands, les bastides dans lesquelles ils pouvaient se réfugier, dans lesquelles ils pouvaient retrouver de l'alimentation, il fallait se nourrir. C'est très compliqué de vivre comme ça en dehors de la société. Il fallait aussi tout ce qui était volé, il fallait ensuite évidemment le vendre. Donc il avait tout un système. En fait, c'est une vraie organisation très complexe qui repose vraiment sur une infrastructure, hein, vraiment délictuelle qui est très très importante. Et donc la justice, évidemment, va d'abord s'attaquer aux brigands et puis tout doucement va s'attaquer aussi à tous ses complices, etc. Alors, grâce en particulier aux informations de ce renégat qui finira par sauver sa tête, puisque en fait il y a un accord avec la justice. Hein, donc s'il déclare, s'il raconte tout ce qu'il sait sur les brigands, il est condamné à mort. Mais la paix est commuée, donc hein, il est condamné à finir sa vie en déportation. Mais il a sauvé l'essentiel, car tous les brigands, absolument tous les brigands, ont tous été tués, soit lors d'accrochages avec des troupes armées, soit par le bras de la justice, soit aussi quand ils étaient pris les armes à la main, à un moment donné, on pouvait les exécuter sur place, les fusiller sur place. Voilà. On a voulu faire aussi des exemples. Hein. Les premiers brigands, quand ils sont arrêtés, quand ils sont condamnés par la fameuse commission Férineau, sont exécutés sur les lieux mêmes, soit où ils sont nés, soit où ils ont sévi.
Est-ce qu'on peut considérer ça une sorte de mafia aujourd'hui ?
Alors en fait, c'est tout à fait pareil. Hein. C'est quand on lit ce qui se passe, par exemple en Italie, là, avec le mafioso qui vient d'être arrêté, là, le grand chef, on a exactement la même chose. Alors évidemment, là, c'est des systèmes beaucoup plus sophistiqués, puisqu'on rentre dans une économie, etc. Mais il y a effectivement quelque chose du même ordre. Et d'ailleurs, pour lutter contre les brigands, je parlais des moyens tout à l'heure, mais il y a eu d'autres moyens qui ont été employés. Par exemple, c'est là qu'on a créé les fonds secrets pour essayer de retourner les brigands. On a fait aussi des infiltrations, c'est-à-dire qu'en fait, des faux brigands qui sont rentrés dans les bandes. Et le préfet du Var a même créé une fausse bande de brigands. C'est intéressant parce que quand on travaille sur des périodes beaucoup plus récentes, y compris sur la Deuxième Guerre mondiale et la répression contre les maquis, on retrouve finalement les mêmes méthodes qui avaient été donc inaugurées à l'époque du brigandage à grande échelle. Retourner des gens, ça existait, mais les fonds secrets ont été créés vraiment pour ça et on a autorisé par exemple les gendarmes à se déguiser en brigands pour pouvoir les approcher, ce qui fait que quelquefois on avait des situations ubuesques. Il y a un cas où les gendarmes déguisés en brigands arrêtent des brigands qui sont dans une taverne et finalement tous ces brigands dans cette taverne ne sont pas condamnés par le fait que les gendarmes n'ont pas annoncé leur qualité. Donc les brigands disent « mais on a cru que c'était des brigands ». Voilà, donc ils se sont défendus. Voilà. Donc il y a des situations un peu très particulières comme ça. Après, il y avait aussi des difficultés quand même. C'est qu'en fait, les prisons à l'époque n'étaient pas sûres du tout. On s'évadait très facilement. Hein. Il y a des cas dignes où tout le monde s'évade ou sur les trajets. Il y a vraiment, vous voyez, tout à revoir. Et puis il y a, je vous dis, cette complicité de certains habitants qui fait que les brigands étaient informés aussi de ce qui se passait, de ce qui allait se passer contre eux, et donc ils pouvaient anticiper. Le préfet, à un moment donné, le sous-préfet de Forquette qui se plaint qu'il n'arrive pas, lorsqu'il fait des grandes opérations de ratissage, à attraper des brigands. Et le préfet lui dit « mais regardez, quel est votre environnement ?» et essayer de comprendre effectivement pour quelles raisons ces brigands sont informés de ce qui va se passer. Et puis il y a aussi parmi les brigands des brigandes. Il y a celle qu'on appelait la Belle Marchande, qui était une brigande d'Esparon de Verdon, hein, qui tenait une taverne chez qui les brigands se réfugiaient, mais qui les aidait beaucoup, qui a même participé déguisé en homme à des actions brigandes, qui a été condamné à mort et exécuté à Digne, et qui a servi, qui a inspiré Jean Genot pour certains écrits sur les brigands. Rendez-vous donc à Saint-Martin-de-Brome, à la salle polyvalente, pour la conférence, le mardi 8 février à 18h30.